Attends, je tousse juste une dernière fois.
On va commencer l'épisode comme ça. Non mais attends, n'empêche. Alors, toi, toi t'étais malade. Moi, je suis un peu semi-malade et il se trouve que là, j'enregistre, il y a mon thermomètre qui est à côté. Il se trouve que j'ai un poil de fièvre. Il y a Jean-Yves, c'est pareil. Donc, on a 100% de fin de séance qui est décimée par le coronavirus, quoi.
On va tous... Hashtag, on va tous crever.
Ouais. On va tous tousser. Mais bon, t'es la preuve vivante qu'on s'en sort, au final. Tu vois. Alors que tu es soixantenaire, donc c'est bon.
Dans ma tête, je suis soixantenaire. Comme tu le verras dans ma sélection de films qui est soixantenaire aussi, je pense.
Ah bah, on verra ça. Bienvenue à tous dans cet épisode spécial de fin de séance, spécial coronavirus, spécial confinement, spécial contagion. Il y a tout dans cet épisode. Simplement un petit épisode comme ça pour vous dire qu'on n'est pas encore mort, mais vous donner toutes les recommandations de films qu'il vous faut pour passer les quelques années à venir en confinement. Alors, Arnaud est là. Bonjour.
Bonjour.
Et alors, en tout cas, donc nous deux, on a créé quelques petites recommandations suivant quelques sections, et on a également reçu quelques messages vocaux, parce que voilà, bah forcément on peut pas voir ni avoir des invités à côté de nous, mais ce serait beaucoup trop risqué pour notre vie. Donc ils nous ont donné quelques petites choses à écouter, donc ça va être cool. Est-ce que t'as quelque chose à dire déjà sur le confinement? Est-ce que c'est pas un peu vie ma vie d'intermittent de base?
C'est vie ma vie de scénariste en tout cas.
Ouais, d'auteur.
Ouais, d'auteur chez soi, donc ça change pas beaucoup ma routine, personnellement. Mais,
c'est-à-dire qu'un auteur des années 70 qui avait pas internet, peut-être il devait aller à la bibliothèque, etc. Mais toi, t'es autosuffisant, en fait.
Écoute, j'ai du wifi, tout va bien.
Bah, moi, je t'avoue que même si on est mardi, en vrai, ça a pas du tout changé ma façon de vivre, non plus. j'ai pas de scène de stand-up, voilà, c'est
alors,
tout, parfois ça peut arriver.
La différence, c'est que du coup, on fait le podcast par Skype. On fait du podcast responsable.
Ouais, exactement. Voilà. Bah, faites la même chose. Donc, restez chez vous, au chaud. Écoutez-nous pour savoir du coup quel film vous allez regarder. Et alors, est-ce qu'on commence pas par justement la première section un peu d'actualité, puisqu'on va parler des films de confinement, des films de claustrophobie, quelque part, des films qui vous font rester dans un seul et même endroit. Qu'est-ce que tu peux nous proposer, Arnaud? Est-ce qu'on en a besoin déjà, tu penses, tu vois, de voir quelqu'un à l'écran qui vit un peu la même chose?
Moi, je crois que ça peut être une expérience cathartique.
Ouais.
Et moi, j'ai pris deux films. Un film que je kiffe grave, et un film un petit peu poil à gratter, un petit peu ironique sur toute cette situation.
Ouais.
Je vais commencer par mon film coup de cœur. Bon, c'est un de mes films préférés, et je me suis dit que t'avais peut-être le même d'ailleurs.
Okay.
Donc on verra. C'est The Thing de John Carpenter.
Ok, d'accord.
Bon, c'est un classique, je pense que beaucoup de gens l'ont vu, mais ça fait pas de mal de le revoir. Donc on est vraiment dans un endroit qui symbolise très bien le confinement, puisqu'on est dans une base arctique scientifique où une bête extraterrestre se cache parmi les résidents de cette base et peut prendre à volonté l'apparence de n'importe lequel d'entre eux et commence à se construire une paranoïa autour de ça pour savoir où se trouve la bête, qui la bête a-t-elle tué, etc. etc. Bon, c'est un film génial. Alors, je sais, on en avait un petit peu discuté de ça avant de faire l'émission. Je t'avais dit que moi, le confinement, ça me faisait penser à Alien. Mais j'ai décidé plutôt de parler de The Thing parce que, en vrai, je préfère The Thing à Alien.
En plus, il y a un truc qui est similaire à ce qu'on vit tous. C'est-à-dire que, comme dans The Thing, tout se passe en Antarctique. Il y a le côté, l'extérieur n'est pas possible, en fait. Tu vois, tu ne peux pas aller à l'extérieur. Mais tu es quand même piégé avec une certaine contamination possible.
Et puis ce qui est marrant, c'est que ça joue aussi vachement sur la peur de l'épidémie, puisque il y a notamment cette séquence où chacun des résidents de la base va tester son sang pour savoir en fait si la bête se cache parmi eux, qui est très réminiscent de la peur du sida, par exemple, dans les années 80. En fait, c'est un film qui convoque énormément d'une imagerie du XXe siècle. À travers tout son film, que ce soit la paranoïa, la peur rouge, elle y est un petit peu, puisqu'il faut savoir qu'à la base c'est un remake d'un film de Howard Hawks, mais qu'il avait fait sous pseudo, je me rappelle plus quel était le pseudo qu'il avait pris pour faire ce film, et l'original qui est moins intéressant et qui est beaucoup plus directement d'ailleurs une parabole du conflit
guerre froide.
Ouais. De la guerre froide. Il y a quand même quelque chose de la paranoïa politique qui est présente ici aussi. Il y a tout un tas d'imagerie qui va être convoquée avec le feu, qui va rappeler beaucoup le Vietnam, que ce soit le napalm ou les moines qui s'immolent pour protester au Vietnam. Il va y avoir comme ça des images qui vont revenir. Et à travers tout ça, ouais, je pense que c'est un beau résumé de toutes les psychoses du XXe siècle et le confinement en fait partie. Voilà.
Ben, effectivement, c'était mon film. Alors, je l'avais choisi en second parce que pour moi, ça faisait...
I knew it!
Ça faisait le lien. En fait, c'était le film un peu intersectionnel, j'allais dire, puisque c'est un peu mis... confinement, mi-contagion, donc c'est parfait, ben, je pense que tu as tout dit. Et alors, intéressant, le film est disponible sur Netflix, donc voilà, ce sera facile pour vous de le regarder, tout bêtement. Donc voilà, rien à dire de plus, il faut regarder ce classique de la contagion, du confinement par John Carpenter. J'ai choisi mon second film sur cette catégorie du film de confinement. Pour moi, c'est Buried, un film de Rodrigo Cortés avec notamment Ryan Reynolds, qui joue en fait un camionneur qui travaille en Irak, qui en fait pendant tout le film se retrouve enterré vivant dans dans un cercueil avec juste assez d'air pour tenir, je crois, je sais plus, quelques heures, jusqu'à avoir une certaine rançon par un groupe de terroristes, et il est juste laissé avec un briquet et un téléphone portable, et tout le film se passe simplement en discussion entre lui et divers interlocuteurs qu'il arrive à mettre en coordination pour essayer de s'échapper de là. Ben, je trouve que, voilà, quitte à parler de films de confinement, autant avoir l'endroit le plus serré possible. Parce que je me dis, tu vois, si tu vois un film comme ça, même si tu vis dans un 15 mètres carrés, 10 mètres carrés à Paris, et ben t'es quand même heureux.
C'est mieux.
Ouais, c'est mieux. Et j'ai choisi ce film parce qu'il n'est pas... En fait, il n'est pas très connu. C'est pas... non plus un film de génie, on peut lui trouver quelques petits défauts, mais je l'aime beaucoup parce qu'il était juste surprenant, en fait. Le fait d'avoir quelque chose d'un peu inédit, et d'avoir... je pense que c'était... la sortie, c'était 2010, et en fait, je pense que c'était un peu le début de, j'allais dire, la vraie carrière de Ryan Reynolds, tu sais, où il a commencé à faire des films... bon, on peut plus mainstream comment ça s'appelait déjà, les National Lampoon et American Van Wilder, qui sont en gros plutôt des comédies potages qu'il avait faites avant. Donc voilà, c'est un film à checker, ça s'appelle Buried, donc enterré en anglais.
Ouais, je me souviens, je l'avais vu à la sortie. J'ai plus énormément de souvenirs de ce film, mais si je crois me souvenir, je crois qu'il y a un début qui marche très très bien et que le film s'effondre un petit peu en cours de route, quoi.
Oui, il y a des petites choses qui font que... Bon, après, c'est vrai que je ne l'ai pas revu depuis, je pense, une petite cinquaine d'années. Mais si tu veux que... Voilà, un bon petit film d'1h35, je pense que ça fait le job. On a une sorte de conte de la crypte, un peu. Tu vois, mais en film, et avec une mise en scène qui est quand même assez assez intéressante et originale pour certaines scènes, donc c'est pas mal. Voilà, et bah du coup, ça clôt. Ah non, pardon, t'avais ton second film de confinement.
Ouais, j'ai un
Oui.
deuxième film, un film un petit peu ironique sur cette situation, puisqu'il s'agit de L'Ange Exterminateur de Luis Buñuel. Donc, c'est un film de sa période mexicaine et qui raconte l'histoire de. Ça se déroule lors d'une soirée mondaine bourgeoise. Et juste avant cette soirée, il se trouve que tous les domestiques de la maison, sans s'être concertés les uns avec les autres, donnent leur démission en même temps et se barrent. Et lors de cette soirée, en fait, les convives se rendent compte que ils peuvent pas sortir de la pièce dans laquelle se déroule la fête. Et ils savent pas pourquoi, c'est-à-dire il y a rien qui les en empêche, mais ils peuvent pas. Et petit à petit, ça va tourner évidemment au jeu de massacre. Ça va durer des jours et des jours enfermés dans cet endroit. Donc, ils vont se mettre à manquer de nourriture, à avoir un manque d'hygiène, etc., etc. Et ils vont petit à petit se mettre à aller jusqu'à s'entretuer, etc., etc. Donc, on sent qu'il y a une dimension un petit peu métaphorique dans tout ça, c'est-à-dire que les riches ensemble, une fois que les pauvres se sont barrés, sont incapables en fait de
Ouais,
maintenir une.
la critique de la classe bourgeoise et
Voilà.
de sa connexion avec la réalité, quoi, en gros.
C'est ça. Et donc c'est très marrant, c'est très caustique, c'est très ironique comme Buñuel peut le faire, et surtout quand il décide de filmer la bourgeoisie. C'est un peu le film jumeau de Le Charme discret de la bourgeoisie, justement, qui aborde un peu des thèmes un petit peu similaires, qui a un sens de l'absurde un petit peu pareil. Et c'est un film qui m'a énormément marqué quand je l'avais vu, et je crois qu'il y a eu pas mal d'héritages. Je me souviens bizarrement, quand j'avais vu ce film, en fait, ça m'avait rappelé un épisode de Buffy qui avait été un remake de ce film, mais que j'avais vu avant d'avoir vu l'Ange Exterminateur. Donc je sais qu'il y a tout un tas de choses, de séries télé qui vont s'en inspirer pour certains épisodes, etc., etc. Donc c'est sans doute pas le film le plus célèbre de Luis Buñuel, mais en tout cas, c'est mine de rien hein, qui a eu pas mal de descendants comme ça, que je trouve assez marrant et qui peut permettre de parler autrement de confinement plutôt que de toujours parler, comme tu dis, de trucs claustrophobiques. Ça peut être aussi
Ouais.
drôle, ça peut être ironique, ça peut être. Voilà.
Bon bah super. Alors juste avant de passer à notre section numéro 2 qui est justement les films d'épidémie, on va entendre les recommandations de Ellie. Ellie qui était l'invitée de l'avant-dernier épisode. Eux n'avaient pas à respecter nos sections à nous. Eux, ils vont nous dire justement juste quel film regarder pendant ces vacances forcées, quoi, quelque part.
D'accord.
Le premier film que j'aimerais conseiller, c'est I'm a Legend, ou Je suis une légende pour les gens qui ne sont pas allés en cours jusqu'en troisième. Parce qu'avec ce qu'on vient en ce moment, c'est peut-être bien d'avoir les bases, quoi. Voilà, juste un petit peu une idée de ce qui va se passer. On évite de sortir la nuit. Voilà. On met des bombes autour de la maison et des halogènes. Et on bute des chiens. Voilà. Très bon film. Deuxième film. Moi, c'est ma première claque cinématographique, je crois, ou scénaristique en tout cas. C'est The Usual Suspect. Même si Spacey, quand même, film très très lourd. À regarder en une fois, très important, à regarder en une fois et jusqu'au bout. Voilà. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et comme bon bah gros classique, voilà, pour rigoler un petit peu, les deux OSS. OSS 117, voilà, c'est meilleur film humoristique que je connaisse. C'est voilà, pour rire quoi. Pour pas pleurer, pour pas voir la. Non. Faut rire. Et Jean, il sait faire ça. Jean, il a la capacité, quoi. Texte très très lourd.
Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, écoute-moi, ça me semble pas mal, effectivement. Tu regardes I Am Legend juste pour te mettre en jambes, pour être sûr que tu vas rester justement chez toi à regarder tous les films en sécurité. Et puis des classiques. Parce qu'en fait, c'est ça aussi que j'ai pu demander à tous nos anciens invités. C'est un peu les trucs à côté desquels vous êtes peut-être passé et qui sont disponibles là. Je sais que Usual Suspect, il est disponible sur Amazon Prime et OSS 117 pour garder le sourire sur Netflix. Les deux sont sur Netflix, je crois aussi. Donc voilà. En fait, on va faire un peu la pub des services de streaming. Mais en même temps, on ne peut pas faire autrement si on est bloqué à la maison. Alors, bah, écoute, on passe au film d'épidémie. Alors, bah, vas-y, je t'attends.
Alors, déjà, petit truc, j'ai décidé de mettre aucun film de zombies et de se concentrer sur des films avec des vraies maladies dedans. Ah. Dès qu'ils font tousser, dès qu'ils font tousser.
C'est marrant parce que j'ai un peu fait la même chose, donc on va voir si tu dis ce film-là, vas-y.
Non, mais d'abord, j'ai un petit avant-propos parce que je cherchais un petit peu et je me suis rendu compte que c'est vrai, il y a très peu de films qui ont été faits sur de véritables épidémies.
Ouais.
C'est-à-dire que il y en a, à ma connaissance, aucun sur la grippe espagnole, par exemple. Sur la peste, la grande peste du XIVe siècle, il y en a très très peu. Et c'est très marrant de se dire quels sont les sujets historiques qui sont choisis quand on parle de fiction. C'est rarement cela, alors que finalement, l'histoire des épidémies, c'est sans doute l'histoire qui a le plus façonné notre monde. C'est-à-dire que quand on prend la grande peste du XIVe siècle qui a tué, je le rappelle, 50% de la population européenne quand même, c'est... Ça a été un événement qui, par la suite, a lancé beaucoup de choses. C'est-à-dire que le besoin... Il y a beaucoup d'historiens qui pensent que c'est le fait que la société ait besoin d'être restructurée qui a lancé la Renaissance juste après, et ce genre de choses. Et si on lit aussi le livre de Jared Diamonds, De l'inégalité parmi les sociétés, et, il essaie de chercher, en fait, qu'est-ce qui a fait que l'Occident a réussi à dominer le reste de la planète. Et pour lui, la raison principale, c'est le fait qu'on avait les maladies les plus violentes et que la colonisation du continent américain aurait été absolument impossible s'il y avait pas, si les colons n'avaient pas amené avec eux le choléra, la petite vérole et toutes ces saloperies qui ont décimé les Indiens d'Amérique par millions. Donc en fait, on parle de quelque chose de très très important et que la fiction n'aborde quasiment pas. Et je trouve ça assez, assez drôle en fait. Et c'est pour ça que pour mon premier choix, j'ai décidé de choisir un des rares films qui aborde une épidémie de manière historique. Et il s'agit du 7e saut d'Ingmar Bergman. Donc le 7e saut d'Ingmar Bergman, c'est, ça raconte l'histoire d'un croisé, un chevalier croisé qui revient de croisade et qui arrive en Suède pour se rendre compte qu'il arrive en pleine épidémie de peste. Et alors qu'il arrive chez lui, en fait, la mort vient le voir parce que son temps est écoulé. Et le chevalier va passer un pacte avec la mort en lui disant que s'il arrivait à battre la mort aux échecs, il le laisserait partir. Mais la mort, elle a pas que ça à foutre, alors la partie d'échecs dure un petit peu de temps, parce qu'elle doit aller tuer des gens qui ont la peste, etc., etc. Et donc cette partie va durer durant tout le film, et durant tout le film, en fait, il va traverser la société de l'époque, et voir la peste se dérouler comme ça devant ses yeux. Alors ce qui est marrant dans ce film, c'est que on voit quelques solutions qui sont adoptées pour essayer d'éradiquer la peste. Première solution qui est envisagée, par exemple, c'est de faire des processions d'autoflagellation pour essayer de que Dieu nous accorde la miséricorde. Bon, ça marche pas super bien. La deuxième méthode, c'est de brûler des sorcières qui auraient peut-être amené la peste sur eux. Bon, ça marche pas super bien non plus. Donc je pense que les méthodes qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire le confinement et tout ça, c'est peut-être un poil plus efficace que de brûler des sorcières. Et si le film peut nous enseigner ça, je trouve que c'est déjà pas mal.
Et ben je c'est un film que j'ai mis aussi dans mes deux, celui-là. Parce que en fait j'étais parti un peu justement un peu en mode. Pas vraiment zombie, mais effectivement sur le Invasion of the Body Snatchers, etc., qui est en fait une épidémie, tu vois.
Ouais.
Insidieuse aussi, parce que tu ne sais pas qui est l'extraterrestre, c'est-à-dire qui a pris justement, qui a été atteint de cette maladie, un petit peu comme le coronavirus, tu vois. Mais je me suis dit, non, mais en fait, c'est vrai qu'il faudrait quand même de la vraie bonne, bonne maladie. D'ailleurs, bah, mes deux films, j'ai choisi ça. Il y en a un qui était un peu de mon enfance et que j'ai hâte de revoir, mais je me souviens que c'était pour moi la référence. Et puis, je vais le dire juste après, et puis le septième sceau avec bah, le regretté Max von Sydow, parce qu'il
oui,
vient
qui vient de mourir
qui vient
la
de
semaine
mourir,
dernière en plus.
qui est un film. En fait, c'est un. Tu sais, c'est souvent ce genre de films qui sont très révérés par beaucoup de cinéphiles et dont les gens se disent ça va être trop chiant à regarder. Mais en fait, c'est un film qui est très intelligent, mais sans être lourd, et en plus avec des points d'humour, etc. Donc vraiment, ça vaut vraiment le coup de bah, d'aller cocher le septième sceau de sa filmographie si on l'a pas encore vu. Je crois que celui-là aussi, il est sur Amazon Prime. Et effectivement, alors entre la visite de ce monde moyenâgeux, mais aussi pas mal de métaphores avec la religion, pas mal de symboles bibliques, etc. C'est de la maîtrise de A à Z, quoi. C'est vraiment,
Ce
tu
qu'il y a,
sens.
ouais, c'est qu'il a quelque chose d'une fable parce que, bon,
Ouais, c'est une sorte de conte, quoi. Ouais.
c'est pas historiquement juste, c'est-à-dire les croisades se passent pas en même temps que la peste, par
Ouais,
exemple, tu
ouais.
vois, donc c'est pas quelque chose qui est. Mais c'est pas le but du film, et ce qui est assez beau en prenant justement ces personnages qui reviennent de croisade, c'est que ils reviennent et ils se rendent compte en fait de. Après toutes les horreurs qu'ils ont causées là-bas, les deux personnages, c'est-à-dire le chevalier et son écuyer qui vont traverser un petit peu cet endroit-là, ils sont devenus complètement insensibles et avec cette idée que s'ils ont fait tout ça et que Dieu n'existe pas, ce serait l'horreur absolue. Donc en fait, il le dit à un moment donné, le chevalier, c'est-à-dire que s'il veut gagner du temps avec la mort, avec cette partie d'échec, c'est parce que il voudrait avoir la certitude que Dieu existe pour pas que sa vie ait été vécue en vain.
Ouais, enfin,
Et donc il va traverser un pays qui aussi est ravagé par la peste et il va se mettre à douter de plus en plus de tout ça. Mais au milieu de tout ça, comme tu dis, il y a des traits d'humour, il y a même des moments assez beaux et assez paisibles parmi tout ça, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment un film de questionnement métaphysique sur la vie, mais qui est pas limité à essayer de dire de toute façon la vie n'a pas de sens et la vie est merdique, etc., etc. C'est quand même beaucoup plus complexe que ça, le film, quoi. C'est un film qui mine de rien, mais un peu de joie. C'est-à-dire que même l'acceptation de la mort des personnages à la fin de ce film, il y a quelque chose finalement d'assez joyeux, d'assez paisible et d'assez.
ouais, comment accepter la mort? Après, ne faites pas comme Max von Sydow et sortir de chez vous pour voir la cour des
Et ouais.
miracles à l'extérieur.
Mais
Mais
ben oui, c'est ça, c'est vraiment un exemple de tout ce qu'il faut pas faire en cas d'épidémie. C'est-à-dire faire des rassemblements pour se flageller, c'est-à-dire t'ouvres la chair pour que le virus puisse sortir de toi, tu vois, pour aller. C'est non, quoi, c'est.
Cela dit,
Je
si
mets
vous.
zéro sur les respects des consignes gouvernementales dans ce film, par contre.
Cela dit, si vous voulez prouver que vous êtes le Messie, c'est le truc à faire, tu vois. Genre, tu sors nu et tu dis tous ces mots dessus et tu te balades. Ok,
Et
d'accord.
tu brûles une sorcière aussi.
Bien sûr. Bah, ça, de toute façon, il faut toujours le faire.
La base.
La base. Et bon, bah, ok, bah, on a encore un qui est le même. Et ensuite, alors, je vais être dans le très mainstream, mais qui a totalement bercé mon enfance. Je sais pas si toi, tu t'en souviens. C'est le film Alerte de 1995
J'ai
de.
failli le mettre.
Ah, t'as vu? De Wolfgang Petersen, qui s'appelle Outbreak en anglais. Alors là, enfin, le cast, c'était franchement, les stars A-list de l'époque, Dustin Hoffman, René Russo, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Cuba Gooding Jr., Donald Sutherland, ouais. Que des gens géniaux qui en imposaient à l'époque. Tu sais, c'était quand tu allais voir un film au cinéma et que tu sentais l'autorité émaner d'absolument tous les personnages qu'il y avait à l'écran. Et donc, c'est des médecins de l'armée, en fait, qui tentent d'éradiquer la progression, en fait, d'une épidémie qui touche au début une petite ville aux États-Unis. Une épidémie qui a été amenée par un petit singe capucin, tu sais, un peu comme le Marcel de Ross dans Friends. Et voilà, il était question de napalmer le village, etc. Parce que on était sur un virus qui ressemblait énormément à celui d'Ebola, mais avec beaucoup plus de puissance. Et pour moi, ça, voilà, ça a bercé tous les films de combinaisons étanches, tu sais, de médecins, de hazmat suit comme ils disent les Américains, parce que il y avait absolument tout dedans. C'est un film qui est très divertissant. C'était le blockbuster un petit peu de l'année 95, hein, je pense.
Ouais, je me souviens très bien. Je l'avais pas vu à sa sortie, mais c'était un film de vidéo club, beaucoup. Tu sais, tu le louais à Vidéo Future en 1996, un peu ce film.
Voilà, c'est ça. Et tu le regardais, bien sûr, absolument quand il passait sur TF1 ou France 2 à partir de 98, quoi. Alors là pareil, j'essaie de prendre le truc qui est un petit peu la pire des choses, pour que, comme ça, quand vous allez regarder Alerte, vous allez vous dire, bon, quand même, le coronavirus, c'est pas grand-chose par rapport à ça. Genre, vous allez pas vous liquéfier en toussant et en ayant des convulsions et pour émettre votre sang partout. Donc c'est pas mal pour se dire, bon, on vit quand même une vie sympa. Alerte, donc, regardez ça. Alerte avec un point d'exclamation, c'est marrant parce que le titre du film en anglais c'est Outbreak, juste simple, mais en français c'est Alerte, point d'exclamation.
C'est parce qu'il faut un peu step up the game, tu vois.
Ouais, c'est qu'en fait ils savent que les Français, si tu leur dis Alerte, ils vont pas écouter.
Il faut le point d'exclamation.
Ouais, sinon ça marche pas du tout.
Mais l'autre film que j'ai choisi est pas si éloigné que ça, puisqu'il s'agit de Contagion. De Steven Soderbergh.
Ouais, j'ai hésité.
Et en fait, tu sais que j'ai quand même un petit faible pour l'ami Steven Soderbergh,
ben ouais,
qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et je me souviens à l'époque, c'est un film qui a été très décrié, notamment par la critique, etc. Et moi, j'avais beaucoup aimé ce film. C'est-à-dire, je pense que c'est sans doute le film qui montre la description la plus réaliste de ce que peut être une pandémie et comment elle est gérée. Et je me souviens qu'il y a des éléments qui sont pas si éloignés de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire que la manière dont il montre... Déjà, c'est une grippe. C'est une grippe. Il me semble que c'est une grippe aviaire, si je me souviens bien.
Ouais, c'était quelque chose de très similaire, ouais, au SRAS ou quelque chose comme
et
ça.
Et donc,
ouais,
il montre comment ça circule. Et je me souviens que, justement, il parle de toutes ces choses, de comment le virus va être déposé sur une surface par quelqu'un qui l'a. Quelqu'un d'autre va toucher cette surface. Et puis, en se touchant le visage, va récupérer la maladie, etc., etc. Et parmi tout ça, c'est-à-dire, c'était un film choral où on passait d'une histoire à l'autre pour voir comment l'épidémie se propageait, où on avait des gens, des médecins, des gens des épidémiologistes qui s'occupaient de la situation, et on avait des petits moments qui semblaient réels. Et moi, il y a eu une scène dont je me souviens très bien, que j'ai trouvé super. C'est une scène où un médecin annonce à Matt Damon que sa femme est morte du virus. Et je sais pas si tu te souviens de cette scène.
Pas trop, j'avoue.
C'est-à-dire, le médecin lui dit « Votre femme est morte », et il y a Matt Damon qui répond « Je peux aller... mais elle va bien, je peux aller la voir ?»
Ouais, ouais.
Et il
ouais,
y a lui qui lui dit « Non, elle est morte », et il se met à s'énerver, il se mettait à nier ça, et j'avais trouvé ça hyper bien. À la fois, j'y croyais vraiment, si tu veux, à cette scène. Matt Damon l'a joué super bien, il y a plein de petits trucs comme ça qui étaient hyper bien foutus, et... Je pense que c'est pas mal de revisiter le film aujourd'hui, ou de le voir, parce que si à l'époque vous l'avez pas vu, parce que vous avez vu qu'il y avait des critiques de merde sur ce film, et que vous y êtes pas allé,
qui est d'ailleurs vraiment pas très bien noté par quiconque, d'ailleurs, que ce soit sur IMDb ou Allociné, alors que franchement, je ne vois pas pourquoi. C'est-à-dire que en termes de, maîtrise, c'est super bien fait, en fait. Je sais pas, est-ce que c'est parce que absolument toutes les stars ne survivent pas dans le film et que ça a gêné des gens, qu'il fallait absolument que tout le monde survive, je sais pas beaucoup.
D'ailleurs, c'est marrant, c'était un autre casting A-list,
oui,
tu
c'est
sais,
vrai. Ouais, Matt Damon, Kate Winslet, Marion Cotillard, il y avait Laurence Fishburne, ouais, il y avait tout le monde, quoi.
Si tu fais des films avec des virus, ça attire les stars, qu'est-ce qui se passe?
Il y en a si peu, c'est vraiment dommage, du coup. Mais c'est très drôle, là aussi, de voir, tu vois, qu'au final, il en faut beaucoup moins en termes de létalité pour quand même paralyser bah, le monde
Oui.
entier, tu vois, parce que en fait, tu vois ça dans un film, tu dis oui, contagion, bon, bah, je comprends pourquoi ça se fait, mais j'avoue qu'il y a un truc, du coup, qui devient presque anticlimactique, mais parce que le cinéma nous a menti pendant tant d'années, c'est juste de nous dire que ben non, en fait, c'est juste une grippe normale, probablement vous irez bien, mais comme c'est une nouvelle grippe, on ferme quand même les portes de tout le monde, quoi, tu
Oui,
vois.
enfin,
Eh.
il faut rappeler, c'est-à-dire que pour Hollywood, tu vois, pour que ce soit un peu géant, tu vois, il faut des bilans du genre 80% des gens meurent quand ils chopent le virus. Mais quand il réfléchit, 3%,
Eh ben oui, si tout le monde est infecté, ça fait des
ça
millions.
fait ça fait des dizaines de millions de personnes mortes, quoi. Donc
C'est clair.
c'est pas rien non plus, quoi.
C'est clair. Alors, avant de passer à la dernière section, où quelque part, ben, en fait, nous aussi, on va faire comme les autres invités, on va juste recommander des films à regarder en ce moment. On va écouter les recommandations de Aude Alice qui était là pour l'épisode 91 du Joker. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit?
Alors bien sûr, tous les destinations finales, hein, pourquoi? Parce que dans des temps qui sont plutôt incertains en ce moment, c'est plutôt rassurant de regarder un film où on est assez certain que les gens qui doivent crever vont crever. Et moi, ça me fait chaud au cœur. Alors je commencerai par vous proposer bien sûr mon film préféré, qui est donc Shining, hein, de Stanley Kubrick sur un livre de Stephen King, parce que ça nous raconte quoi? Quelque part, ça nous raconte un petit peu ce qui peut se passer dans un cas de confinement en famille, dans une grande maison, et même dans une grande maison avec plein de pièces, parfois la promiscuité peut avoir ses limites. Voilà, c'est ce que nous prouve ce film, et moi je suis très contente de vivre seule. Et bien sûr, la fameuse classe américaine, hein, ce grand détournement assez culte, si vous connaissez pas. Vraiment, c'est absolument très drôle. Et vous pouvez le regarder plusieurs fois. En plus, c'est intéressant sur YouTube. Il est sur YouTube. Donc, vous pouvez le regarder pendant que vous faites la queue pour faire vos courses, plusieurs fois de suite, hein, je pense. Et comme ça, vous pourrez avoir plein de répliques cultes qu'ont les aficionados, comme je peux le dire, de ce film, tel que tu peux m'envoyer un fax. Voilà. Et n'oubliez pas d'acheter des chips. Non, il n'y en a plus.
Ben merci, Aude. Du coup.
Y a beaucoup d'amour pour Michel Hazanavicius, dis-moi là.
Ouais, t'as vu ça? Ben ouais. Est-ce que ça voudrait dire que Michel Hazanavicius peut peut-être combattre le virus sans vous? Tu vois? Grâce au rire, faut se demander. Destination finale, je sais pas pour les premiers. Je sais que le 5 est sur Netflix. Je sais que Shining est sur Netflix aussi. Il faut voir pour les premiers destinations finales. C'est vrai que peut-être que c'est ça en fait le plus stressant, c'est le ne pas savoir. Ne pas savoir. Là au moins, vous êtes censé savoir qui a déjoué la mort et qui devrait mourir. En fait,
Et
ce qui est
alors,
d'ailleurs
truc.
le septième saut pour les kids, quoi. En fait, en vrai. Destination
Oui,
finale.
le septième saut pour les kids, ouais, c'est ça. Ce qui est marrant avec. Tu sais que j'avais essayé de voir Shining sur Netflix, et c'est marrant parce que je suis tellement habitué à la version en 4 tiers de Shining
Ah.
que sur Netflix, elle est en 16/9. Et juste, j'ai du mal parce que les images de Shining dans ma tête, elles sont en 4 tiers.
Sans Katia. Ouais. Mais alors ça c'est important parce que bon déjà à la base nous on devait pas enregistrer ce spécial coronavirus, on devait normalement pour la sortie du film Christine, Yann, toi et moi faire un épisode Oldies but Goodies sur ça et en fait j'ai réalisé que il y avait Christine sur Netflix mais c'est une version qui a été recadrée dégueulassement. Voilà, on va rentrer dans les petites spécifications techniques des cinéphiles. Mais en gros, il y a un format qui a été filmé par le réalisateur où il y a une image avec les bords de l'image, quoi. Et je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, ils ont l'option de mettre du 4K en fait, sur Netflix, mais ils ont décidé de ne pas prendre les mêmes masters ou quoi. Ils ont recadré, mais vraiment, genre, presque plus nullement que ce qu'il y a dans le DVD de Christine. C'est-à-dire qu'en gros, tu perds de l'image, quoi. Donc, voilà, simplement
Très
pour vous
étrange.
dire, regardez Christine aussi, mais ne le
C'est pas la
regardez pas sur
pro.
Netflix.
C'est pas la première fois qu'ils font ça. Je sais pas s'ils ont d'ailleurs réglé le problème, mais je me souviens qu'il y avait eu à l'époque quand ils avaient mis Mommy de Dolan sur Netflix.
Ah oui, il voulait pas faire les tout ce qui
qui est
se
en
passait.
carré. Et normalement, le film, il s'ouvre à deux moments, à des scènes vraiment. Et en fait, Netflix s'était trompé et ça n'y était pas dans le film. Ils avaient gardé le format carré pendant toute la durée du
Genre,
film.
ils ont vraiment des gros cons. Bah écoute, est-ce que tu veux commencer du coup cette dernière catégorie? Simplement, voilà, on va dire, je sais pas, deux petites recommandations des films. Alors, pour le coup, on peut se permettre de s'affranchir des confinements, épidémies, mais des choses à voir.
Bah écoute, j'en avais longuement parlé l'année dernière dans mon podcast Troisième Rang,
Yes.
parce que
Abonnez-vous.
c'est un film que, alors ça va pas être sur les services de streaming, il va falloir l'acheter en VOD, malheureusement, mais bon, on peut mettre un peu sa main au portefeuille pour voir ça parce
Yes.
que c'est génial. Il s'agit de First Reformed de Paul Schrader, qui est sorti directement en VOD chez nous sous le nom Sur les chemins de la rédemption, je crois.
Mais il est sur Amazon.
Ah, ben très bien,
Ouais, il est
très,
sur
très
Amazon
bonne
Prime.
nouvelle. Et donc c'est un film génial, farouchement contemporain, je trouve, qui parle vraiment très bien de notre monde actuel, qui raconte l'histoire en fait d'un prêtre qui un jour va... Une des fidèles de son église lui demande de parler avec son mari, parce qu'elle est enceinte et son mari est déprimé parce qu'il n'a pas envie de voir en fait son enfant arriver dans un monde aussi pourri que celui qu'on le lui laisse. Et donc on va apprendre que en fait ce type est un éco-terroriste qui a fait de la prison pour des attentats qu'il avait fait. Et il va parler au prêtre en fait de toutes ses idées écologistes radicales. Peu de temps après, cet homme se suicide et ses idées vont contaminer le prêtre. Et ce qui est marrant, c'est que ce prêtre, qui est d'une église réformée, donc un protestant, son église est très proche en fait de tous les milieux républicains américains, donc de droite, très conservateurs, qui nient le réchauffement climatique. Et lui, il commence à se poser des questions sur ça, c'est-à-dire que
En fait, c'est une contamination de l'esprit, en fait,
exact.
dans ce
Ouais,
film-là.
il y a quelque chose de ça, mais du coup, il va se demander comment ça se fait que les gens les plus religieux nient la destruction écologique de
Ouais.
la planète, alors que on est censé protéger en fait la création de Dieu. Et donc, il va partir dans une espèce de délire autour de ça, et devenir lui-même petit à petit un écologiste radical
Ouais.
suite à ça. C'est une espèce de descente aux enfers d'un homme à cause d'idées politiques qui vont se mettre à le contaminer. Et c'est brillantissime en fait. Tu l'avais vu du coup le film
Ouais,
toi
je
ou...
l'avais vu. Excellent film, effectivement. Ça vaut totalement le coup, oui. Surtout que ça aussi, c'est un des films qui est passé. Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire inaperçu ou en tout cas qu'il n'y a pas eu le bon marketing par rapport à la qualité du film, tout simplement. Moi, alors attendez, avant de passer à moi, il y a également Cyril qui veut nous dire qu'est-ce qu'il faudrait regarder, et ensuite je clôturerai le tout. Alors, Cyril a une vision particulière du confinement, il va nous le dire.
Alors, je passe le confinement seul chez moi, célibataire. Mes colocs sont toutes les deux parties rejoindre leurs copines, donc j'essaye de voir le confinement comme une occasion de faire de l'introspection, de chercher qui je suis au fond de moi-même. Là, on en est au jour 2, et j'ai regardé Magic Mike, et c'était pas mal, et donc je m'apprête à regarder Magic Mike XXL, et sans doute la filmographie de Channing Tatum. Et après, je pense me lancer sur une grosse filmo John Hamm. Voilà, des acteurs de qualité. Le cinéma étant un médium visuel, voilà, il faut se faire plaisir en ces moments de confinement. Mesdames, messieurs, bonne journée.
Voilà. Mais je pense qu'il ouais, le confinement peut permettre de se poser des questions sur son orientation sexuelle aussi.
Oui, je vois des filmographies beau gosse, donc qui décident de se faire.
De beau gosse. Et s'il doit se faire la filmo de Channing Tatum, il y a Hail Caesar qui est sur Netflix, un
Et qui est super.
très bon film des frères Coen.
Super bien, ouais.
Et moi, je vais avoir qu'un seul mot à vous dire pour ces vacances forcées. Vous êtes à la maison, vous êtes censé rester toute la journée à la maison. C'est le moment de sortir le mot magique Scorsese, en fait. Vous allez pouvoir regarder des films de 3 heures sans qu'on vous fasse chier. Il y en a au moins 4 ou 5 à regarder, je sais, sur Netflix et sur les autres plateformes de streaming aussi. Là, je me suis fait hier Casino et c'est un régal. Il faut faire ça en fait. Vraiment, et ne pas hésiter à regarder The Irishman aussi, qui est sorti récemment. Je sais qu'il y a Les Affranchis également. Shutter Island. Regardez tous les films où vous êtes dit j'ai pas le temps pour ça, comme espèce de prétexte. Vous allez voir que parfois c'est bien de poser son téléphone loin de soi et de juste rentrer dans un film et de s'engager, tu sais, dans un
Et puis,
film.
Scorsese en plus, parce que là on parle ouais, de voir un peu les mastodontes de Scorsese, tout ça. Mais
Yes.
genre, les films entre guillemets mineurs de Scorsese, faut les voir, ils sont tout aussi bien en fait.
Alors
C'est-à-dire
sur
que
Amazon, je sais qu'il y a After Hours par exemple.
After Hours, c'est formidable.
Il faut franchement
La valse
profiter
des
des.
pantins, c'est génial. Alice n'est plus ici,
Putain,
c'est génial. Le temps de l'innocence, c'est génial.
celui-là aussi, il y est. Je sais que la valse des pantins, il est également sur Amazon Prime. Genre franchement, ça vaut le coup de piquer des codes de vos amis et de regarder des choses dont tout le monde a pu parler plein de fois dans des soirées où vous vous êtes dit tiens, je vais hocher la tête en faisant semblant de l'avoir vu. Et en fait, ça vaut le coup de juste les voir. Juste pour votre plaisir, quoi. Voilà. Bah, je crois qu'on a terminé, hein. On a survécu, en tout cas, à cet épisode.
Pour le moment.
Pour le moment. Tu t'en vas vers quoi? Qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que tu vas regarder là? Tout de suite
Ben
après.
écoute, là j'ai commencé à regarder les films de Studio Ghibli
Ouais.
qui sont sur Netflix. Il y a tous les films des Studios Ghibli.
D'accord. T'en es
Donc c'est
où?
bien. J'en suis. Je pioche à droite à gauche. Hein.
Ah, tu suis pas de chronologie
Je suis
particulière.
pas de chronologie, je fais avec les coups de cœur, donc ouais.
Et moi, je vais reprendre mon visionnage de la série Buffy contre les vampires. Je
Ah!
suis à la saison 5. Je me régale.
T'as
Voilà.
passé l'épisode des anges exterminateurs alors ou pas encore?
Je pense pas, ça me dit rien. J'ai passé l'épisode Hush, tu sais, où tout l'épisode était
Ah, c'est génial.
silencieux parce qu'ils ont perdu la voix. Mais oui, ça c'était le joli truc de de toutes les séries des années 90 avec le Monster of the Week. Ils pouvaient prendre tous les classiques de la science-fiction et de l'horreur et pouvoir les refaire à leur sauce. Big up à Joss Whedon qui écrivait des dialogues et des personnages quand même très, très intéressants. C'est-à-dire que même, enfin, c'est très regardable aujourd'hui, ça vieillit pas trop. Donc,
C'est sur quoi tu le regardes ça?
Amazon Prime aussi.
Ok.
Je fais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui je fais la pub de Jeff Bezos de ouf. Et puis ne sortez pas, bien sûr, commandez tout par Amazon. Et, et soyez riches, bien entendu. Voilà. Merci à tous. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur fin de séance sur iTunes. Merci beaucoup Arnaud. Abonnez-vous également au
Merci à toi.
podcast Troisième Rang. Et puis on vous dit à tous bisous.
Bisous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.